Sylvaine feuillette le livre qui est trésor indéchiffrable. Contemple les tracés sinueux, les courbes et les déliés qui dessinent des arabesques mystérieuses. Elle n'a jamais appris à lire, ne peut donner voix à ces inscriptions qui semblent avoir été creusées par des insectes laborieux dans le papier rugueux. Elle sait que la solution de l'énigme qui l'a conduite à l'enfant de lune est incrustée dans ses sillons énigmatiques. Elle a songé demander à quelqu'un de lui faire entendre le message caché dans ses pages, a repoussé cette idée, sentant que ce serait violer un mystère sacré, profaner une tombe destinée à rester silencieuse. Elle accepte l'obscur et l'abscon, fait taire sa curiosité, jouit de ce secret qui, même s'il lui échappe complètement, n'appartient qu'à elle seule. Elle referme le livre, en caresse la couverture de cuir souple et grenu. Au son des pas de son homme qui rentre, elle le glisse hâtivement dans le berceau des bébés qui dorment. Son petit Jehan, Gladys, est l'enfant de la nuit. Andoche ôte sa veste, s'assoit, trifouille sa barbe broussailleuse. Ses yeux d'un bleu presque transparent cherchent un appui dans la pièce, ne savent où se poser. Il commence à parler d'une voix sourde. « J'ai réfléchi, vois-tu. Il y a notre Jehan, qui n'est plus si petit pour sûr puisqu'il est sevré. Mais faut bien s'en occuper quand même. Avec la petite de la ville et celle que tu as ramenée, ça nous fait trois bambins. Je sais que tu t'es attaché à elle et puis j'admire ton bon cœur de prendre comme ça une petite tombée dont ne sait tout et de la traiter comme si c'était ta propre fille, mais il faut regarder les choses en face. Tu vas t'épuiser avec toute cette marmaille et tu risques de plus avoir du bon lait. » Andoche marque une pause. Il hésite à poursuivre. Voudrait que sa femme lui vienne en aide en lui disant « Tu as raison, il faut qu'on trouve une solution. » Il se racle la gorge comme si ce qui restait à énoncer, le plus dur, était un quignon de pain qui obstruait sa trachée. « Quand tu as ramené la petite cette nuit-là, j'ai rien dit, même que c'est pas l'envie qui m'en manquait, et je t'ai fait confiance. » J'ai bien vu qu'il y avait un truc spécial entre elle et toi, comme une corde invisible qui vous tiendrait attachés ensemble. J'aurais dû la couper tout de suite, cette fichue ficelle, et emmener le bébé autour. Sûr que l'hospice aurait trouvé une nourrice. Ça fait maintenant une semaine que tu la nourris et pour rien. On peut pas se le permettre. La Gladys, elle nous rapporte de quoi vivre. Et on en a besoin. Avec les beaux jours qui approchent, je vais pas vendre beaucoup, juste le bois de cuisine. Alors voilà ce que je pense. La petite, on peut pas la garder. Elle nous met en danger. » Ces mots, que Sylvaine redoutait d'entendre depuis la nuit où elle est revenue avec l'enfant, brûlent ses paupières, incendient ses cils, sont une flamme que le flot de ses larmes cherche à éteindre. Le bûcheron s'approche de sa femme, lui serre l'épaule maladroitement, en signe de soutien et de réconfort. Tu as un grand cœur, je sais, et c'est pour ça que tu me plais. Ton travail, tu le fais avec droiture et conscience, pas comme la Michaud ou d'autres. Pour sûr, elle s'encombre pas du nombre de marmots, celle-là. 3, 4, voire 5, et tant pis s'il y en a qui meurent. Tout ce qui l'intéresse, c'est de toucher les pensions. Mais t'es pas comme elle. Et je voudrais pas, si la petite de la ville passe pas l'hiver, qu'on pense que c'est de ta faute, que t'as choisi d'en nourrir une autre alors que t'étais déjà engagée. Tu sais toi-même que c'est pas raisonnable. Dis-moi quand tu seras prête. » Sylvaine comprend ce que son homme n'ose pas formuler. Il lui laisse le temps de prendre congé de l'enfant de lune, puis il l'emmènera autour d'Abandon. Elle sait que là-bas, on entasse les orphelins sur de la paille souillée de leurs excréments et on essaie de les nourrir de lait d'animaux ou de bouillie en attendant de trouver une nourrice. Rares sont ceux qui en réchappent. La jeune femme ne réagit pas quand Andoche sort prestement. Le silence se fait dans sa tête, dans son corps. un silence opaque et dru, une nuit noire sans fond. Elle s'approche du berceau, remarque que l'enfant de lune est éveillé. La nouvelle-née a les yeux ouverts, fixés sur un point invisible. Des yeux couleur de nuages chargés de pluie et d'orage. Sylvaine est happée par ce regard, y plonge instantanément. Elle se laisse absorber par cette mer de grisaille, emportée par le roulis des vagues, s'abandonne avec confiance aux remous et tourbillons aqueux. Elle part en voyage vers une terre immémoriale, navire qui vogue sur un océan infini à la teinte d'acier. Les plaintes de Gladys la sortent brutalement de ce rêve éveillé. Les nourrissons ont faim. La nourrice déboutonne son corsage, en sort ses deux seins lourds. Elle s'assied à côté du berceau, place l'enfant de lune à sa droite et s'étonne encore une fois de la vigueur avec laquelle cette nouvelle-née tète. Dès que le lait jaillit, elle installe la petite de la ville à sa gauche et celle-ci n'a plus qu'à déglutir pour avaler le lait qui coule facilement grâce à l'effort de succion de sa sœur de lait. Sylvaine se félicite d'avoir trouvé ce stratagème qui permet à Gladys de boire sans effort. Contrairement à ce que son homme croit, l'enfant de la nuit ne met pas en péril la petite de la ville. Les deux bébés qui lui ont été confiés, l'un par la loi des hommes et l'autre par la lune rousse, sont maintenant repus. Leurs paupières se ferment doucement, tandis que leurs doigts fins se délient et s'étirent, comme pour attraper un objet imaginaire. Sylvaine nourrit ensuite Jehan. Elle coupe une tranche de pain, remplit une écuelle de lait de chèvre, assoit son bébé sur ses genoux. Elle mâche des morceaux de pain, les trempe dans le lait, puis les donne à son fils. Cette technique, qu'elle a apprise de la vieille Margot, permet à l'enfant de digérer convenablement. La jeune mère ne s'embarrasse pas de cuillère. Elle porte la bouillie de sa bouche à celle de son petit, de ses doigts alertes, léchant le liquide laiteux qui coule le long de ses phalanges, essuyant de son index les gouttes qui dégoulinent sur le menton de son bébé pour les sucer. Elle apprécie cette manière animale de nourrir son garçon, cet échange de fluides, lait et salive mêlée, qui s'est substitué au ruissellement de sa poitrine. De don, le nourrissage devient partage. Le repas achevé, Jehan babille, émet des gloussements, idiome signifiant dans sa langue secrète. Sylvaine n'a pas le cœur à participer à l'élaboration de ce langage neuf, à s'aventurer dans ce territoire inconnu. La décision d'Andoche picasse comme un pivert contre la paroi de sa boîte crânienne. Elle sait qu'elle ne peut s'opposer à la volonté de son mari, mais refuse de perdre l'enfant de lune. Elle sort à nouveau le livre, le feuillette, en espérant y trouver une clé qui ouvrirait la porte d'une voie nouvelle, où l'enfant de la nuit pourrait cheminer en sa compagnie.